Bonjour Asma Mala.
Bonjour David.
Merci d'être là avec nous dans ce studio de Radio Classique ce matin. Peut-être pour commencer, éclairez-nous sur le titre de votre livre. Qu'est-ce que c'est que la technopolitique ? Ça ressemble à un concept assez nouveau pour étudier ce qui se passe dans nos démocraties.
Vous avez absolument raison, et c'était un peu l'idée, bien que ça puisse paraître de prime abord nouveau, donc abscon, l'idée c'était de dire que toutes les questions technologiques qu'on traite comme ça de façon, disons, hystérique et presque pavlovienne depuis 2 ans et depuis ChatGPT, mais en fait, bien antérieurement à ça, ne sont pas des questions techniques. Et c'est souvent l'approche qu'on peut en avoir. C'est un outil, l'impact sur le travail, l'accompagnement. Mais ça, ce sont des sujets qui viennent plus tard. Le véritable enjeu derrière, en tout cas celui que moi je voulais creuser, c'était toutes les questions, les enjeux politiques, géopolitiques derrière la technologie. Donc qu'est-ce que ça véhicule comme vision du monde ? Comment est-ce que ce choc technologique vient percuter nos démocraties, le vivre ensemble ? Quel nouveau modèle politique ? En quoi nos institutions peuvent être un peu anachroniques dans la réponse qu'elles opposent, en fait, à ces risques-là nouveaux ? Nouveaux, non pas dans leur nature, mais nouveaux parce qu'ils sont aujourd'hui massifiés, industrialisés. Donc toute la question n'est pas, en fait, techno dans technopolitique, c'est politique.
Alors justement, dans le livre, vous liez tous les thèmes que vous venez d'évoquer, l'intelligence artificielle, vous avez cité ChatGPT, les cyberattaques, les réseaux sociaux, le big data, les manipulations de l'information à partir de fausses vidéos. Vous les liez, vous les mettez ensemble, vous dites, c'est pas uniquement des journaux télévisés ou des journaux radio. L'émergence de ces phénomènes a un lien.
Bien sûr.
Ils sont tous liés et ça change la donne politique. Expliquez-nous comment c'est lié.
Pendant tout, qu'est-ce qu'on fait, grosso modo, et notre réflexe à nous tous, moi la première d'ailleurs, c'est on prend une actu, on la commente à chaud. Et en fait, la difficulté et l'enjeu de ce livre, c'était de se dire, ok, on prend un temps froid, on décélère parce que ça va trop vite, donc contre-intuitivement, c'est précisément ça, et on essaie de comprendre comment est-ce qu'elles font système. Parce que toutes ces technos-là font système. IA, intelligence artificielle générative, réseaux sociaux, cyber, métavers, les implants Neuralink maintenant de Elon Musk. Et qu'est-ce qui fait système ? C'est que quand on regarde un peu les choses à froid, c'est-à-dire avec réalisme, elles constituent quoi ? L'infrastructure socle à partir de laquelle se déploie tout le reste. Le fait politique, le fait militaire, le fait social, l'information, la démocratie, le lien aux autres. Et c'est ça, en fait, que j'ai essayé de démontrer. Et en plus, si je continue et je termine, on s'aperçoit que ces infrastructures informationnelles, j'ai presque envie de vous dire civilisationnelles désormais, construisent les nouvelles formes de pouvoir, elles redistribuent le pouvoir et la puissance du XXIe siècle, et c'est là où on commence à avoir un vrai problème, c'est pas tant la techno elle-même, et j'en reviens à mon titre, c'est qu'en fait, elles appartiennent à quelques gars de la Silicon Valley qu'on peut compter sur les doigts, mais littéralement d'une main. Et là, on commence à avoir un vrai sujet démocratique, chez nous, en Occident, parce qu'en fait, ils privatisent ce qui est en fait de l'infrapublic, et donc d'une certaine façon, ils privatisent quoi ? Notre futur.
Vous allez nous donner des exemples dans un instant, mais je voudrais vous poser cette question. Vous affirmez dans votre livre, la technopolitique fait de nous des soldats. Des soldats de quoi ? De quelle guerre ? De quelle cause ?
Celle des esprits. L'un des chocs, le choc technologique, ou en tout cas l'une des caractéristiques de ce choc technologique qui vraiment nous percute là, et qui fait qu'on est très déstabilisé, on le voit, c'est que ces technologies-là, qu'on vient d'évoquer, toutes, elles ont une spécificité, c'est qu'elles sont duales, c'est-à-dire qu'elles sont systématiquement biface, à la fois civil et militaire. Les réseaux sociaux, vous y allez pour faire quoi ? Communiquer sur l'émission du jour, regarder, faire de la veille, poster sur, la bouillabaisse d'hier soir, je sais pas si vous
partager avez... Partager la chronique de Guillaume Tabar.
Partager la chronique de Guillaume, regarder vos potes, envoyer des messages. C'est ludique, c'est pratique, c'est sympa, on voit pas le danger. Et en même temps, ce sont des espaces d'influence. Et en même temps, ce sont des espaces de manipulation. Et en même temps, c'est désormais là où se joue quoi ? Les luttes informationnelles, c'est-à-dire ces nouvelles conflictualités dites cyber-hybrides. Et donc, ça s'inscrit toujours, la question technologique, ça s'inscrit toujours dans un contexte économique et dans un contexte géopolitique. Et de ce point de vue-là, cette dualité, et c'est ça aussi l'autre nouveauté, c'est qu'elle est dans votre poche.
C'est ce que vous appelez la militarisation des réseaux sociaux.
Absolument, ce sont des armes de guerre aujourd'hui. Des armes de guerre invisibles. Mais évidemment, où se joue aujourd'hui la propagande, les luttes informationnelles, les récits, les narratifs qui vont venir infiltrer les groupes qui vont être ultra, disons, sensibilisés à ces questions-là, et qui en fait sont des groupes conspirationnistes, séparationnistes. c'est par les réseaux aujourd'hui. Et ils sont parfaitement identifiables, ces groupes-là. Donc toute la question, c'est d'abord de prendre conscience des sujets, des enjeux.
Est-ce qu'ils sont marginaux, ces groupes? Est-ce qu'ils sont encore minoritaires? Ou nous-mêmes, à notre corps défendant, nous alimentons cette machine à influence en partageant une vidéo, en faisant un commentaire et en prenant parti publiquement?
On est tous potentiellement une cible. Alors, après, on peut être une cible prioritaire ou une cible secondaire. Mais dès l'instant où on a un smartphone avec des applications, avec une régulation, on pourrait parler d'ailleurs des paquets réglementaires de l'Europe, mais qui sont en fait assez inopérants globalement. Le signal politique est bon, parce qu'il faut bien faire quelque chose, mais de fait, quand on parle de modération, là où la viralité suppose quelques secondes, on est déjà trop tard. C'est cet anachronisme que je voulais aussi pointer. Et donc, nous sommes tous une cible, et dès l'instant où nous sommes une cible, et qu'est-ce qui est une cible en fait ? Ça, c'est l'état-major qui en parle de façon très claire. C'est en fait une guerre de quoi ?
L'état-major de ?
Des armées, pardon. Excusez-moi. C'est la guerre des perceptions. Et en fait, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'elle va se jouer sur un temps très, très, très long, petit à petit, de façon subreptice. Alors, ça va être des vidéos de chats, vos influenceurs préférés, et puis tout d'un coup, bam, un petit message subliminal, ou tiens, on va scroller sans fin, et donc on va développer une forme d'attrition cognitive. Aujourd'hui, on parle beaucoup des écrans en ce moment en France. Interdire les écrans, rationner les écrans. Je trouve que globalement, la polémique est assez mal posée. Pour être très franche, parce que les écrans, ça ne veut rien dire. On peut passer 2 heures derrière un écran à s'instruire et 2 heures derrière un écran à faire n'importe quoi. Donc encore faudrait-il un peu plus préciser l'enjeu. Mais est-ce qu'il y a une question démocratique, et avant qu'elle ne soit démocratique, une question de, non pas culpabilisation des gens? Il est hors de question de les culpabiliser. Vous savez, pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, on entend certains dire « Ah bah, la Boétie, c'est la servitude volontaire ». Mais non, dès l'instant on a compris que c'est ces systèmes, si je vous dis « David, à partir d'aujourd'hui, puisque vous n'êtes plus dans la servitude volontaire, vous arrêtez tout, plus de téléphone, plus de mail, vous êtes hors société ».
Il faudra que je fasse une cure. Asma Mala, technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats? Vous venez de le sortir au seuil, vous êtes chercheuse et professeure à Columbia et à Polytechnique. Je reviens à ces grandes firmes informatiques dont vous dites finalement qu'elles sont aujourd'hui quasiment des organisations qui militarisent l'espace numérique. Dans le livre, vous prenez l'exemple des grandes firmes informatiques américaines, vous citez aussi les grandes firmes chinoises, parce qu'il n'y a pas que la Silicon Valley qui est en cause. Dans les années 70, on parlait des firmes transnationales pour parler des multinationales et on parlait de leur pouvoir capitalistique et d'influence. Aujourd'hui, elles sont remplacées par ces grandes firmes informatiques et ça pose un problème aux États et à la démocratie.
Oui et non. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, alors sur la démocratie, c'est clair. On en a parlé. Mais aux États, pas forcément. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces big tech, c'est-à-dire ces géants technologiques, alors qui c'est? Ça peut être OpenAI avec Sam Altman, c'est ceux qui ont sorti ChatGPT, Elon Musk, Zuckerberg de Meta, Facebook, Google, Amazon, Apple, enfin, Microsoft, évidemment. En fait, ne sont pas que des entreprises privées. Ce sont aussi des acteurs politiques, géopolitiques, idéologiques aux États-Unis, on le voit. Les BATX, qui sont leur équivalent, disons, pour aller très vite, chinois, sont eux complètement mis au pas par le PCC, le Parti communiste chinois, donc par Pékin. Mais en fait, on voit plutôt des enchevêtrements avec les États. Et un des principaux marchés aujourd'hui des géants technologiques, ce sont les marchés publics de défense sur le régalien. Et donc, à un moment donné, se pose la question, y compris aux États-Unis, de savoir si on n'est pas en train de voir l'émergence d'un complexe techno-militaire.
Quand vous citez la Silicon Valley en citant ces GAFA, oui. Est-ce qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui plutôt du côté chinois? Parce que, pour le coup, la démocratie, elle est véritablement... elle est inexistante, oui. En Chine. Et donc, c'est peut-être là qu'est le danger du contrôle social, de l'embrigadement, avant d'aller voir du côté des méchants capitalistes.
Ah, c'est pas tellement comme ça que je lis la chose. C'est pas se dire les autres sont méchants, donc nous on est bien. La question c'est, nous sommes en démocratie libérale, occidentale, on est extrêmement mis à mal aujourd'hui parce que le monde est éclaté, multipolaire, remettre les choses dans le contexte géopolitique, on a un éclatement de l'échiquier avec ces pôles qui sont en train de se redéfinir et de se confronter. Ça s'inscrit quand même dans quelque chose qui s'appelle la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine, qui se cristallise sur la question technologique et en particulier l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence artificielle à usage militaire. L'enjeu à la fin, c'est le leadership mondial, donc la suprématie militaire. Donc il faut remettre ça dans le contexte. Et moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est pas que les Chinois vivent en dictature, c'est que nous, ici, on arrive à préserver notre modèle. C'est là où on va avoir une difficulté, parce que je trouve que la pensée politique est un peu indigente.
Est-ce qu'on va réussir à préserver le modèle électoral? On a deux grandes élections en Occident dans les mois qui suivent. On a les élections européennes dans cette Europe où la désinformation règne maintenant. Et puis, il y a l'élection américaine aux États-Unis en novembre prochain. Est-ce que vous estimez que l'acte de voter aujourd'hui et son sens et sa portée et son intégrité sont menacés par les technologies?
À deux égards, mais votre question est excellentissime et c'est une question ultra complexe. La première menace, c'est la menace qui n'a rien à voir avec la techno, c'est pour ça que c'est politique, c'est la défiance généralisée quand même, globalement. Il y a une fatigue, il y a une lassitude. Donc il y a déjà la question de quel est notre projet? Quel est le nouveau récit démocratique? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Vers quoi tendons-nous? Avons-nous encore le désir de faire société? Ça, ce ne sont pas des questions techno. La techno vient amplifier les problèmes, vient polariser les problèmes.
Ceci dit, l'agacement, la fatigue proviennent aussi de l'utilisation à l'excès des réseaux sociaux.
Coefficient amplificateur.
On s'excite avec les mauvaises nouvelles.
Absolument. Les mauvaises ou pire. Là, en ce moment, il y a une polémique mais complètement affolante et absurde. Cette histoire de danse avec les stars, là, les deux filles.
Non, mais. Je pensais pas que vous parleriez de ça ici.
Mais je vais vous parler de ça. Pourquoi? En fait, ça fait quoi? Ça fait une saturation cognitive. Donc tout se vaut. C'est-à-dire que deux filles qui se crêpent le chignon, Gabriel Attal qui donne des bons points à ses ministres, tout se vaut et donc plus rien ne vaut rien. Et donc là, on a un énorme problème de priorisation. Donc d'esprit civique, donc de vitalité démocratique.
Alors,
et le deuxième risque, et c'est important, c'est le cyber, c'est-à-dire aujourd'hui avec la désinformation, on peut vous donner des fausses informations sur les bureaux de vote, on peut vraiment manipuler votre vote, potentiellement, Cambridge Analytica 2016.
C'est ce qu'avait fait Donald Trump pour contester l'élection. Il y a 5 ans, il avait dit « Bon, il y a des bulletins de vote dont je ne veux pas, il y a des modalités de vote dont je ne veux pas. » Et donc lui aussi, d'une certaine façon, avait contesté, critiqué la suprématie technologique.
Et les réseaux sociaux donnent une résonance extraordinaire, en deux mots, extraordinaire, qu'on ne peut plus aujourd'hui, avec les moyens institutionnels qu'on a, contraindre.
Je reviens 10 ans en arrière. Facebook pour se faire des amis, Amazon pour acheter des livres, livres.
C'était le mode de l'économie.
Instagram pour les soirées diapo, Twitter pour s'informer plus vite, et LinkedIn pour chercher du travail et YouTube pour partager des recettes de cuisine. 10 ans plus tard, c'est plus du tout ça. La promesse technologique, si je vous lis bien, elle a atteint ses limites, pire que ça.
Bah, c'est-à-dire que dans les exemples que vous citiez il y a 10 ans, vous étiez un peu acteur, ou en tout cas, il y avait une valeur ajoutée que vous trouviez à aller trouver la recette du fondant, parler à vos potes perdus de vue depuis 150 ans, etc. Enfin, pardon, 10 ans, etc. Mais là, tout d'un coup, j'ai réalisé ce que je disais en le disant. Mais là, tout d'un coup, en fait, le rapport de force est totalement inversé, c'est devenu tout à fait asymétrique. Nous sommes la denrée, nous sommes la matière première. Nous produisons de la donnée qui derrière vient alimenter des énormes bases de données, des énormes algorithmes, et qui sont encore une fois duos. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension quand même militaire et régalienne à avoir en tête. Et tout ça est enchevêtré. Et c'est vraiment l'ambivalence de ces technologies-là qu'il faut avoir en tête. Et d'où la prise de conscience de ce qu'on fait derrière les écrans.
L'ambivalence, c'était une promesse d'émancipation de l'individu, qui avait atteint son paroxysme au moment des révolutions arabes. Au moment des révolutions arabes, on disait les réseaux sociaux, mais c'est l'avenir. C'est ce qui va nous libérer, c'est ce qui va donner aux États du Maghreb, on pensait à l'époque à la Tunisie notamment, c'est ce qui va leur permettre d'accéder à la démocratie. 10 ans plus tard, on est revenu, et c'est donc la soumission technologique. Comment en sort-on? Parce que il faut quand même
l'utiliser.
Il faut quand même l'utiliser. Moi, je vous suis. Il faut quand même rester libre.
Tout à fait. Comment fabrique-t-on des hommes libres? Et Bernanos disait, la liberté, pourquoi faire? J'ai presque envie de nous poser à nous tous collectivement la question, la technologie, pourquoi faire? En fait, c'est pas de se dire pour ou contre la technologie, c'est bien, c'est mal. Je pense pas qu'il faille du tout enfermer la technologie dans ce discours binaire. La question, c'est de dire, on a un problème de privatisation. Il y a quelques acteurs américains qui, en fait, font régner de l'arbitraire sur des technologies qui deviennent civilisationnelles. Dès l'instant où on dit ça, comment est-ce qu'on ouvre la boîte noire? Et la boîte noire, ce n'est pas l'algorithme, en premier lieu, de mon point de vue. C'est d'abord la gouvernance de ces boîtes-là. Et aux États-Unis, quand on dit comment faire, aux États-Unis, il y a un débat à un moment donné qui apparaît en disant « mais on a un problème, c'était Google qui était visé en l'occurrence, est-ce que en fait on ne devrait pas leur donner le statut de transporteur public au même titre que les chemins de fer ou les fournisseurs d'électricité ?» En Europe, on appellerait ça les partenariats publics-privés. Il va falloir qu'à un moment donné, on entre et qu'on soit partie prenante des prises de décision qui prévalent à la conception technologique.
La régulation, c'est ce que je comprends de votre conclusion à ce moment-là. Technopolitique, ça vient de paraître au Seuil. Lisez-le et plus jamais vous ne regarderez votre smartphone et vos écrans de la même façon. Merci à ce moment-là d'être venu parler au micro de Radio Classique. À suivre le rappel des titres à la revue de presse lue et contrôlée par un être humain, Hervé Gattegnaud, une intelligence pas du tout artificielle. Et à 8h40, notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert, un homme, un journaliste.